Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le 78e anniversaire de l'indépendance du Liban ce lundi, une fête dans un contexte de très grave crise socio-économique. Nous écouterons l'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane, ainsi que la journaliste franco-libanaise Ronda Takieddine. La Grande Mosquée de Paris et trois autres fédérations nationales ont installé ce dimanche un Conseil national des imams, une instance qui vise à donner un agrément aux imams. Notre invité sera le recteur de la Grande Mosquée de Paris, maître Chemseddine Hafiz. Le dernier moine de Tibirine est mort hier au monastère de Midelt au Maroc. Le père Jean-Pierre Schumacher était âgé de 97 ans. En Tunisie, le président Kais Saied a assuré lors d'un entretien avec le chef de la diplomatie américaine préparer la sortie de l'état d'exception. État d'exception en vigueur depuis le 25 juillet dernier. La France salue la réinstallation d'Abdallah Hamdok dans ses fonctions de Premier ministre au Soudan. La France qui appelle à une nouvelle étape avec la formation rapide d'un gouvernement civil. Les violences conjugales en hausse de 10% en 2020 en France avec 159 400 victimes. Une annonce du service statistique du ministère de l'Intérieur. L'invité de Pluriel à 19h23 est Laurent Hénard, président du Parti Radical, ancien maire de Nancy. Lors de cette émission, il réagit notamment à l'interview de Ramayad qui a défini le wokisme comme un noble combat de justice et de revendication d'égalité. Extrait dans votre journal. Le 78e anniversaire de l'indépendance du Liban, ce lundi, une fête de l'indépendance sur fond de très graves crises socio-économiques marquées par de multiples pénuries et par une inflation record. L'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane.
Aujourd'hui, au moment où le Liban traverse des crises plurielles qui se nourrissent les unes des autres, au moment où le Liban est ballotté par les turbulences régionales et internationales, l'heure n'est sans doute pas aux célébrations. Le moment est peut-être venu de donner à notre indépendance tout son sens et toute sa vigueur. Le moment est peut-être venu de donner à cette indépendance son sens en accordant aux citoyens libanais toute sa souveraineté. L'indépendance devient alors l'expression de la liberté et de la responsabilité de chacune et chacun. Elle s'affirme surtout comme une œuvre collective. Certes, l'indépendance s'acquiert de haute lutte en un jour, mais la préserver et la renforcer exige un engagement de tous les jours et de tous les instants. Vive le Liban.
L'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane, à l'occasion de cette fête de l'indépendance, je vous propose à présent d'écouter la journaliste franco-libanaise Ronda Takieddine.
Parler d'indépendance aujourd'hui, quand ce parti gouverne le Liban, isole le Liban des Arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats ne veulent plus entendre parler du Liban. Pourquoi ? À cause du Hezbollah et des positions qu'ils prennent contre leur pays, au Yémen, avec les Houthis et tout ce qui s'ensuit. Donc, parler d'indépendance aujourd'hui, c'est très malheureux parce que ce peuple libanais est sous le joug d'un parti qui ne fait pas l'intérêt du Liban, qui obéit à des intérêts externes, qui sont principalement les intérêts de l'Iran, et accessoirement de la Syrie.
Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour le Liban ?
Écoutez, moi je pense que je suis très pessimiste sur le Liban, parce que tant que ce parti domine la situation politique et a une couverture chrétienne, c'est un parti donc qui gère tout ce qui vient de l'extérieur, notamment de l'Iran. Et donc, je ne vois pas de sortie de crise tant qu'ils sont comme ça. Regardez, pour le juge Bitar, c'est un juge qui s'occupe de l'enquête pour le port, de l'explosion du port. Eh bien, Hezbollah bloque la réunion du gouvernement à cause du fait qu'ils ne veulent pas de ce juge. Donc ils ne veulent pas de justice, ils ne veulent pas que les victimes aient au moins un jugement honnête et sincère et indépendant. Donc c'est quoi l'indépendance ? C'est quoi l'indépendance ? Ils veulent pas de justice indépendante, Ils veulent tout gérer.
Randa Takieddine, journaliste franco-libanaise basée à Paris. En Tunisie, le président Kais Saied a assuré lors d'un entretien avec le chef de la diplomatie américaine préparer la sortie de l'état d'exception. Il est en vigueur depuis le 25 juillet. Après avoir limogé le premier ministre et gelé les activités du Parlement, le chef de l'État promet un retour au dialogue national. Il a justifié ses décisions par un péril imminent lié au blocage politique et à la profonde crise socio-économique et sanitaire dans laquelle se trouvait la Tunisie en juillet. Le dernier moine de Tibirine est mort hier au monastère de Midelt au Maroc. Le père Jean-Pierre Schumacher était âgé de 97 ans. Il était le seul survivant du massacre de Tibirine en 1996. 7 moines du monastère de Tibirine avaient été enlevés. Leurs têtes décapitées avaient été retrouvées sur une route 2 mois après leur enlèvement. Des manifestations anti-coup d'État hier au Soudan. Un adolescent de 16 ans a été tué d'une balle dans la tête à Khartoum. Cette mort porte à 41 le nombre de personnes tuées depuis le putsch du 25 octobre. Un nouveau décès qui intervient alors que le premier ministre civil, Abdallah Hamdok, a été réinstallé à son poste au terme d'un accord avec l'armée. Les autorités soudanaises ont aussi libéré plusieurs hommes politiques détenus depuis le coup d'État. La France a salué ce lundi la réinstallation d'Abdallah Hamdok dans ses fonctions de premier ministre. La France qui appelle à une nouvelle étape avec la formation rapide d'un gouvernement civil. Un nouveau candidat à la présidentielle prévu le 24 décembre prochain en Libye. Il s'agit du premier ministre libyen par intérim, Abdelhamid Debba. Cette candidature intervient après celle d'un fils de Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, et du maréchal Khalifa Haftar. La Grande Mosquée de Paris et 3 autres fédérations nationales ont installé hier un Conseil national des imams, une instance qui vise à donner un agrément aux imams. Elle dote, selon un communiqué des fédérations, le culte musulman d'un espace d'élaboration, de réflexion et d'action concernant l'imamat et sa pratique en France. Ces fédérations évoquent le début d'un travail qu'elles souhaitent collégial, pluriel et normatif pour renforcer l'installation du culte musulman au sein de la République. Entretien avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamseddine Hafiz.
C'est un élément historique. Nous avons, alhamdoulilah, créé ce Conseil national des imams qui a pour mission d'abord de réunir en son sein tous les imams. Tous ceux qui veulent être membres du Conseil national des imams. Donc c'est un appel à tous les imams, les murshidettes, d'intégrer le Conseil national des imams, qui aura donc pour objet d'abord d'agréer les imams. Son rôle principal est, il y a une procédure d'agrément qui permet donc à tout imam d'avoir un agrément, et cet agrément lui permettra donc de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositions, notamment de formation continue, de suivi de sa carrière, parce que le CNI a l'ambition d'accompagner durant toute sa carrière l'imam dans sa protection sociale, dans sa rémunération et dans toutes les questions qui concernent la vie professionnelle de l'imam. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Cet accompagnement se concrétise par le principe de la formation de base d'abord, et puis la formation continue qui est nécessaire pour le développement professionnel de l'imam. Voilà à peu près quelles sont les missions. Il y a une mission qui est essentielle aujourd'hui parce que l'imam dans la religion musulmane est considéré comme celui qui est au devant la prière, donc qui conduit la prière. Mais là, aujourd'hui, nous voulons ici en France que l'imam ait un statut, qu'il puisse avoir la possibilité d'un plan de carrière. Donc nous avons imaginé 3 grilles, donc avec 3 niveaux d'imam, donc l'imam débutant, qui après son l'acquisition de son diplôme peut devenir imam. Il sera donc il aura le titre d'imam qui lui permettra pendant les 5 années d'exercice de conduire les 5 prières quotidiennes. Par la suite, après ces 5 années, il devient imam prédicateur et à ce titre-là, il pourra conduire la prière collective du Jumu'ah et faire le prêche. Et enfin, l'imam conférencier qui est celui qui a, je dirais, toute la compétence pour orienter les autres imams en matière de réponse aux questionnements des fidèles, comment accompagner les fidèles dans leur spiritualité. L'imam conférencier devient, je dirais, la référence de l'islam en France.
Avec ces trois autres fédérations, vous plaidez pour une reconnaissance de vos efforts en faveur de l'émergence d'un islam républicain porteur des valeurs de paix, de solidarité et d'ouverture. Cet islam républicain, comment cela doit se traduire ?
D'abord, à montrer que les valeurs de l'islam n'ont rien d'incompatible avec les valeurs de la République. L'imam doit montrer à tout le monde que d'abord, le musulman est un citoyen à part entière, des devoirs, mais en même temps, qu'il a des droits. Et si vous voulez, ce travail de valorisation des règles et des principes de la République qui sont en adéquation avec les valeurs de l'islam. Ça, c'est la première mission de l'imam. Et puis, en même temps, l'islam en France doit être aujourd'hui contextualisé. Il faut absolument que l'imam, à travers sa pratique religieuse, il doit montrer aux fidèles musulmans que sa religion est totalement, je dirais, en adéquation des valeurs de l'islam qui sont des grandes valeurs universelles. C'est ça qui est le deuxième élément pour montrer que les musulmans en France sont totalement intégrés dans la République et sont des citoyens.
Le Conseil français du culte musulman entend mettre en place un Conseil national des imams le 12 décembre prochain lors d'un congrès. Peut-il exister deux conseils des imams en France ?
Écoutez, moi je trouve que ça serait dommage. J'ai fait un appel depuis toujours à l'Union des mosquées de France de rejoindre le Conseil national des imams. Je rappelle quand même que l'Union des mosquées de France a travaillé avec nous pendant quelques réunions en présence du bureau central des cultes. Monsieur le président Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, était présent. Et à un moment donné, il n'est plus venu. On a quand même continué à l'inviter. Et je pense que dans l'intérêt de la communauté musulmane de France, un Conseil national des imams doit prévaloir. Nous lui proposons qu'il rejoigne la grande famille des musulmans de France et l'Union des mosquées de France a toute sa place. Nous avons des valeurs au niveau de la coordination. Nous lui avons dit que de toutes les manières, il n'y avait ni de petites fédérations ni de grandes fédérations. Le Conseil national des imams ne devait pas être un lieu de pouvoir et c'était la démarche que nous avons entreprise. C'est déplorable, mais après, chacun assume ses responsabilités. Je ne peux pas, moi, forcer la main à d'autres fédérations. Et puis, au-delà des fédérations, moi, je considère que tous les musulmans, tous ceux qui sont aujourd'hui cadres religieux, qui s'estiment être des cadres religieux, donc imams, aumôniers, doivent venir vers le Conseil national des imams, qui n'est la propriété de personne, qui est un instrument mis au service de la communauté musulmane et n'est pas au service, je dirais, d'une ambition quelconque. C'est ça le message que j'ai essayé et je me suis évertué à passer en permanence. Pourquoi faire des procès d'intention et pourquoi essayer de créer un autre CNI? Cela n'a jamais été la prérogative du Conseil français du culte musulman, même le président de la République. C'est pour cela que dans notre communiqué, nous avons parlé d'impulsion. Moi, je ne vous cache pas, et je vous le dis aujourd'hui solennellement, j'ai été plusieurs fois encouragé par Monsieur Darmanin, j'ai été encouragé par l'Élysée sur la création du Conseil national des imams. Donc, considérez que nous avons fait main basse sur une organisation, comme je le dis, c'est la propriété de personne. Le ministre de l'Intérieur est venu, il a rencontré le nouveau conseil d'administration du CNI, il a félicité le nouveau président du Conseil national des imams. Donc voilà, continuer à essayer de diviser notre communauté, c'est quand même quelque chose qui ne doit pas être favorisé.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Chemseddine Hafiz. Les violences conjugales en hausse de 10% en 2020 en France avec 159 400 victimes. Une annonce du ministère de l'Intérieur, environ 87% des victimes sont des femmes. La majorité d'entre elles a subi des violences physiques volontaires. Ces chiffres du ministère ne comptabilisent pas les féminicides et les homicides. En 2020, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Laurent Hénard, président du Parti Radical, ancien ministre, ancien maire de Nantes. Ainsi, lors de cette émission, il réagit notamment à l'interview de Ramayad, l'ancienne ministre qui vit aux États-Unis, a défini le wokisme comme un noble combat de justice et de revendication d'égalité. Selon elle, passer devant la statue de Colbert constitue une micro-agression. Je vous propose d'écouter Laurent Hénard.
Quand on en arrive à vouloir revoir toute l'histoire de France avec les seules lunettes du XXIe siècle, c'est la preuve d'un profond malaise. Voilà. Je veux dire, Colbert, évidemment... que c'est l'époque où la monarchie française laissait faire le code noir, hein, qui était un code qui réglementait l'esclavage. Mais enfin, Colbert n'a pas fait que ça, quand même. Il y a eu, on parlait tout à l'heure d'industrie, de manufacture, de savoir-faire. Colbert a développé tout cela. Colbert a essayé d'unifier le royaume avec un service de l'État qui soit un service public efficace. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, évidemment. Dans cette époque-là, et je trouve qu'à un moment donné, vouloir abattre des statues, débaptiser des rues, je veux dire, on peut pas complètement déraciner la France et en faire un pays dont toute l'histoire se résumerait à la pensée d'aujourd'hui. Vous voyez ce que, parce que c'est dangereux ça. Aujourd'hui, on veut revisiter l'histoire sur de bonnes intentions, mais je rappelle qu'il y a des partis extrémistes, que ceux-ci peuvent accéder au pouvoir. Et que si ils leur prenaient l'idée de refaire l'histoire à leur tour, avec leurs valeurs à eux du moment, ce serait une très mauvaise chose. Et toutes les dictatures, en fait, ont fait ça. Quand vous regardez le nazisme, le stalinisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait du révisionnisme. Ils ont tous essayé de réécrire l'histoire. Et je pense que expliquer que à l'époque de Colbert, il y avait un commerce triangulaire, et il y avait une pratique de l'esclavage, hein, un code noir qu'il instituait et que c'est quelque chose évidemment d'horrible qu'il faut condamner et qu'encore heureux au XIXe siècle, dans le sillage des Lumières, il y a eu de grandes figures comme Schœlcher qui ont participé à l'abolition de l'esclavage, oui. Expliquer qu'à cause de ça, dans une époque où, hélas, ce monde était organisé comme ça, Colbert doit être renié et doit disparaître, c'est compliqué parce que ça veut dire que c'est quasiment toute l'histoire de France qu'on va faire disparaître à ce rythme-là.
Laurent Hénard, président du Parti Radical, ancien ministre, ancien maire de Nancy, invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.